Chapitre 40. Vidé, Paul s'était retiré dans son bureau au bord de la nausée. Il avait l'impression d'être un poisson piégé dans une nasse. Il avait merdé grave. L'amoureux de sa fille, coupable ou pas, était mort à cause de lui. Il avait effacé des preuves sur une carte vidéo, détruit des indices essentiels, compromis sa carrière. Tout ça en même pas 24 heures. Heureusement, personne n'avait pu se rendre compte de son absence de la brigade une partie de l'après-midi, puisque personne, hormis le gars de permanence, ne travaillait. Et quand bien même on était le week-end, il était donc libre d'aller et venir. En outre, nul n'avait contacté la gendarmerie pour déclarer une chute du barrage. Dans ce chaos, il s'en tirait à peu près bien. Corinne appela pour connaître l'heure de son retour. Il prétexta un trop-plein de boulot, comme toujours, et il régla sa paperasse, torturée par la chute des Skimets et son cri. Un vrai chant du cygne. L'homme habitait l'appartement au-dessus de son entreprise de pompes funèbres, mais était propriétaire de l'ensemble de l'immeuble. Dans ce cas, à qui appartenait la maison proche du lac Noir ? Héritage familial ? Le père Esquimet avait passé l'arme à gauche à cause de l'alcool quelques années plus tôt, quant à la mère de David, décédée dans la prime jeunesse de son fils. En tout cas, même si l'envie le rongeait, il n'entreprit aucune recherche sur le chalet où s'était à l'évidence rendue Julie durant l'été 2007. Ne pas laisser de traces. De toute façon, il le saurait dès le lendemain. Patience. Il pensa au carnet de Julie, aux jeux, aux esquisses, aux phrases bizarres. Il se rappela le dessin de lettres à deux visages et le mot inscrit dessous, « xyphopage ». Il s'empara d'un vieux dictionnaire rangé dans une armoire. Terme de tératologie. Monstre xyphopage, monstre qui résulte de la réunion de deux individus depuis l'extrémité inférieure du sternum jusqu'à l'ombilique commun. Les frères siamois appartiennent à ce cas. Un monstre xyphopage. Qu'avait voulu raconter l'auteur de l'esquisse? Le bien d'un côté, le mal de l'autre? L'amant de Julie avait-il un double visage? Un homme avec une belle situation, un métier parfaitement intégré d'un côté? Le pire des pervers de l'autre, capable de commanditer un kidnapping et d'arracher une jeune femme à ses parents. Il s'enfonça dans son siège, pensif. Louise allait morfler. Mais elle s'était amourachée d'une ordure. Un homme qui torturait Corinne depuis des années en lui envoyant des lettres anonymes, ravivant sans cesse le souvenir de sa fille disparue. Un individu qui peut-être possédait les clés de cette énigme depuis le début, mais avait gardé ce monstrueux secret pour lui. Ces dernières paroles tournaient en boucle dans l'esprit du gendarme. « Ce n'est pas à toi que j'en veux », avait-il dit à Gabriel juste avant le saut final. « Pourquoi avoir lâché une phrase pareille ?» En excluant Gabriel, avait-il de ce fait sous-entendu que c'était à Corinne qu'il en voulait ? Pourquoi ? Comment David était-il au courant des palindromes et donc du carnet ? Et puis quel lien existait-il entre lui et l'homme que fréquentait Julie, a priori beaucoup plus âgé ? Était-ce son père ? Après réflexion, l'hypothèse du père de David lui parut absurde. Les années d'avant sa mort, le père Esquimet n'avait rien d'un type fréquentable. Rongé par l'alcool, pas le genre à dessiner des labyrinthes. Julie n'aurait jamais pu s'amouracher d'un homme pareil. Paul rentra à Albion aux alentours de 22 heures, la tête farcie de ténèbres. L'envie de questionner Corinne au sujet des Skimets, du passé, le dévorait, mais lui non plus ne devait pas éveiller le moindre soupçon. Il s'installa à table sans appétit. Sa femme ne l'avait pas attendu, elle regardait une série allongée sur le canapé, une couverture sur les jambes. Son blanc de poulet et ses petits pois étaient froids. Il ne chercha pas à se rapprocher d'elle lorsqu'elle lui annonça qu'elle allait se coucher. 5 minutes plus tard, elle revint en silence. Elle resta sur le seuil de la pièce. « On se croise à peine tous les deux. Tu passes tes journées et tes nuits au bureau, encore pire qu'avant. Et quand tu es là, tu ne dis rien. C'est compliqué en ce moment, avec cette affaire de meurtre. » Du bout de sa fourchette, il poussait un petit pois. « Ce n'est pas juste en ce moment, » répliqua-t-elle. « Ça fait des mois que ça dure. » Elle patienta, espérant une réaction, une réponse, et puisqu'il ne bougeait pas, elle s'éloigna. Paul balança sa fourchette sur la table. Il n'y arrivait plus. Il alla s'étendre sur le canapé, se laissa hypnotiser par les flammes dans l'âtre de la cheminée. Comme elle, leur couple était en train de mourir. Corinne ne guérirait jamais du manque de sa fille. L'absence de Julie était un cancer qui, avec une lenteur implacable et sournoise, continuait à la tuer et à le détruire, lui, indirectement. Alors vivre avec un poids sur sa conscience dont il ne pourrait jamais parler risquait de l'éloigner d'elle davantage. Paul s'en voulait de ne plus réussir à se battre. Depuis le retour de Moscato, les vieux secrets crasseux de Saga remontaient à la surface. Julie et son amant mystérieux, Tanchon et ses coucheries, Louise et son odieux chantage. Et maintenant Esquimet. Qui était le prochain sur la liste? Toute la nuit, il cogita. Louise serait interrogée ainsi que les employés du défunt. On sonderait l'état psychologique d'Esquimet de ces dernières semaines, et Louise jurerait qu'ils n'étaient pas suicidaires, qu'ils avaient des projets de vie communes. Mais Paul avait la parade. Esquimet était le corbeau. Il photographiait des cadavres. Cela justifiait son geste. Il ne supportait plus de vivre ainsi. Il regrettait ses actes, ce genre de baratin. Mettre fin à sa vie avait été la seule solution. La ligne était assez solide pour le juge Cassoret, il en était sûr. Le gendarme tiendrait avec fermeté les rênes de l'enquête, tout en essayant d'épargner sa fille le mieux possible, parce qu'elle allait prendre double peine. Amant corbeau, amant mort. À 6h30, Corinne décolla pour sa journée. Il la laissa petit déjeuner seule, attendit son départ avant de se lever, recroquevillée sous la couverture. À ce moment-là, il se détesta. Arrivé à la brigade à 8h, il adressa un bref signe à sa fille déjà sur place et s'installa à son bureau. Elle avait forcément tenté de joindre Esquimet, puisqu'elle aurait dû passer la nuit chez lui. Elle devait être inquiète de son silence. Ce n'est qu'aux alentours de 9h qu'il déroula son scénario ignoble mais nécessaire. Il s'embarqua avec son second, Benjamin Martini, en direction du lac Miroir. Cédric Daméus suivait dans son propre véhicule pour les relevés éventuels d'empreintes qu'aurait laissé l'auteur des tags. Louise n'avait pas posé de questions ni cherché à les accompagner. Il n'avait donc pas eu à lutter. Il devait à tout prix lui éviter la vue du carnage. Paul se gara sur le devant de la centrale, offrit à son collègue un peu d'avance pendant qu'il traînait aux abords du coffre pour récupérer l'appareil photo, tandis que Daméus, lui, emportait sa valise de matériel. Le capitaine voulait absolument que l'un d'eux découvre le corps. Et son stratagème fonctionna. L'adjudant l'appela dès qu'il arriva à l'arrière de l'usine. Paul accourut, gorgé d'adrénaline. Il contempla la masse de chair ayant percuté un rocher à plus de 100 km/h. Tête explosée, membres disloqués dans des angles impossibles, et des litres de sang déversés autour de lui. Le comble. On allait contacter Esquimet pour ramasser les morceaux. Il ne répondrait pas. Et pour cause. Martini était cueilli de bon matin. Daméus, qui avait posé sa valise à ses pieds, était figé. Paul s'approcha avec prudence. On aurait dit un tableau de Pollock, macabre. Le gendarme leva un œil vers le sommet de la paroi où l'on distinguait le bord du barrage. Il ne s'est pas loupé. Les deux hommes le fixaient, exhalant des nuages de vapeur. Paul devait faire attention à ne pas trop en dire ni trop en faire. Pas de zèle, d'allusion, suivre les procédures. Il revint vers eux et sortit son téléphone de sa poche. J'avise le proc.
Deux morts en 3 jours, lâcha Martini d'une voix blanche. Pense qu'il pourrait y avoir un rapport avec le meurtre de la berge?
On a un taux de suicide dans la vallée que personne ne nous envie, surtout en période de mort noire. Ça m'a tout l'air d'un type qui a sauté, mais n'anticipons rien. Va me chercher la rue Balise. On sécurise et on fait rapidement ce pourquoi on est venu en attendant les renforts. Photo des murs, relever des traces si besoin.
Ça tombe mal, mais tu connais le dicton. Un malheur n'arrive jamais seul.
Alors que les gendarmes s'activaient, le capitaine passa les coups de fil nécessaires. Un obstacle médico-légal allait être dressé, il allait y avoir autopsie, analyse toxicologique, tout le toutime. Après avoir raccroché de son dernier appel, il observa la scène sanglante. Il se dit qu'il était en train de vivre la pire semaine de merde de sa vie.